Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmeurs, une émission qui...
Les Tontons Farmeurs, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture.
Une émission pour vous, les agriculteurs.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et nos partenaires, la Banque Populaire et le groupe Agrica, deux partenaires qui ont, il faut le dire, pris des risques en nous soutenant et je les en remercie, bien entendu. Alors, qui sont les tontons farmeurs de la semaine? Tout d'abord, Jean-Michel Rabier, agriculteur dans le sud de la Haute-Marne et cofondateur d'Agri-Échange. En une phrase, Jean-Michel, Agri-Échange, c'est quoi?
Bonjour à tous. Agri-Échange donc, est une plateforme d'échange de services entre agriculteurs sans sortie de trésorerie qui a pour but de baisser les prix de revient des productions agricoles, notamment en baissant les charges de mécanisation. En fait, c'est du troc, de l'entraide formalisée avec une monnaie virtuelle interne.
Et l'autre tonton farmer de la semaine, c'est Raphaël Jeudy, négoce dans l'Allier et cofondateur de la plateforme Bourse Agri qui propose quoi, Raphaël ?
Bonjour Jean-Paul, donc Bourse Agri, c'est une plateforme qui permet aux agriculteurs de vendre des céréales en direct et donc au meilleur prix via un système sécurisé et breveté de match qui passe par notre négoce.
Bon, et je le rappelle, nul n'est parfait et vous êtes tous deux membres d'une association qui a décidé de secouer le monde agricole, c'est l'association du co-farming, on aura l'occasion d'en reparler. Alors cette semaine du lourd car on ouvre un nouveau dossier, les coopératives roulent-elles encore pour les agriculteurs? Mais avant toute chose, je tenais à vous présenter un troisième tonton farmer, un expert de la distribution agricole, Christophe Dequitte. Comment ça va Christophe?
Super Jean-Paul. Dans le Nord, le temps se présente bien pour la moisson.
Bon, alors c'est une bonne nouvelle. Mais comment parler de la coopération sans avoir le président de la coopération agricole française? J'ai nommé Dominique Chargé. Est-ce que vous êtes prêt, Dominique, à défendre les COP ici à l'antenne?
Ah ben je suis prêt à parler coopération et je suis prêt à parler avec tous les interlocuteurs qui voudront bien parler avec moi à coopération, sans
bon,
problème.
Alors c'est très bien, vous savez qu'on va avoir des appels tout au long de cette émission. Ce que je tenais à vous dire, c'est que vous êtes aussi président, donc vice-président d'une coopérative qui s'appelle Terena et avant tout agriculteur, éleveur en Loire-Atlantique. C'est bien ça Dominique Chargé?
Absolument, dans un GAEC à trois associés. Bon. Nous élevons des vaches laitières, donc producteurs de lait, de volailles classiques et volailles label, et également producteurs de céréales.
Bon, alors j'espère que vous êtes chauds les amis. Tout d'abord les actus la semaine et je vais demander donc tout d'abord peut-être à Raphaël, quelle est l'actu de la semaine qui t'a le plus énervé?
Alors l'actu de la semaine, à part les moissons bien sûr qui sont compliquées chez nous, c'est un article de référence agro. Alors, il faut le voir plutôt de façon positive, on va dire. C'est sur la réduction des pesticides avec la France, donc France Agrimaire qui lance un programme d'aide aux investissements. De façon positive, c'est se dire qu'il y a un soutien derrière cette volonté du gouvernement de réduire les pesticides. Donc, c'est positif, on va rester là-dessus. Après, le petit clin d'œil à faire, c'est qu'on subventionne régulièrement les agriculteurs et l'agriculture au sens large. Et c'est encore malheureux que la France ait besoin de ces subventions pour s'en sortir. Voilà.
Bon. Et toi, Jean-Michel, c'est quoi l'article, l'actu de la semaine qui t'a énervé?
Bon, en fait, ce qui m'a un peu énervé ces jours-ci, c'est que j'écoute la radio. J'aime bien écouter la radio, et notamment une radio publique qui en fait n'arrête pas de diviser le monde agricole en fait en racontant un peu des bêtises sur les bio, les non bio, enfin les industriels et en fait ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu et ça sert à rien et c'est un peu énervant toujours.
Ah mais toi t'es bio pourtant.
Moi je suis bio mais je suis pas contre le conventionnel, bien au contraire hein. J'en ai vécu pendant 30 ans du conventionnel, faut pas cracher dans la soupe. Je dis souvent, l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture qui a permis à la génération de mes parents de payer des études à leurs enfants. C'était jamais arrivé avant. Donc, cette agriculture, il y a une évolution, il y a une mutation à faire, mais il ne faut pas cracher dans la soupe, je pense.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Bon, les gars et les filles, n'oubliez pas que c'est une émission interactive. On a besoin de vous pour réfléchir, pour débattre. Alors, si l'agriculture vous intéresse, vous pouvez nous appeler en direct au 07 51 53 17 27 ou nous contacter via Twitter aussi en mentionnant le hashtag TTF comme Tonton Farmer. Alors, on va attaquer le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est le dossier de la semaine. Les COP roulent-elles encore pour les agriculteurs ? Christophe, déjà, on va poser le problème. C'est quoi le problème, s'il y a problème ?
Alors, en gros, je ne pense pas qu'il y ait problème en tant que tel, mais on peut le voir dans tous les sens du terme. Mais je pense que la principale chose concernant les coopératives, c'est leur évolution. Et leur évolution qui est assez normale. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système, j'allais dire, local. Je vous rappelle que les coopératives sont nées en 1936 et qu'en 1936, il y avait à peu près une coopérative par village et que ces coopératives ont évolué. Et qu'aujourd'hui, on a eu une concentration de plus en plus forte des coopératives avec effectivement un panel effectivement d'entreprises qui va de quelques milliers de francs jusqu'à 5 milliards pour la plus grosse. Donc vous imaginez que la structure même des entreprises a énormément évolué et en même temps avec un système juridique qui lui est resté plutôt stagnant avec un homme une voix et une évolution une évolution qui pourrait se poursuivre sur au niveau juridique. Il faut absolument dire, Jean-Paul, pour débuter et pour lancer, nos coopératives agricoles nous sont enviées partout dans le monde. Moi j'ai voyagé partout dans le monde et on vient nous copier nos coopératives de partout. Ça va faire plaisir à Dominique que je dise ça, mais j'ai lu ce matin un article sur la Chine qui se vante d'avoir recréé des coopératives agricoles et que son modèle agricole va être basé sur des coopératives.
Bon, Dominique.
Mais Raphaël, si tu permets, merci. C'est vrai qu'on est envié partout dans le monde. On est même envié dans d'autres secteurs d'activité parce que tu as fait, comme moi, l'analyse que lorsqu'il y avait une défaillance économique dans d'autres secteurs que l'agriculture, on proposait parfois, en tout cas, aux salariés ou aux utilisateurs d'un certain nombre de... j'ai un double... Allô, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien.
On proposait aux salariés, par exemple, de pouvoir se structurer en coopérative pour reprendre l'entreprise. Mais je voudrais corriger un petit peu la caricature que tu viens de donner de l'évolution du monde coopératif. Aujourd'hui, dans les 2300 coopératives que représente la coopération française, il y en a 93% qui sont des TPE et des PME, donc qui sont des petites et moyennes entreprises, qui ont gardé ce caractère très local dont tu parles et qui sont des coop territoriales. Et il y a effectivement aujourd'hui dans le panel, j'allais dire, des coopératives qui ont évolué, mais en fait, elles ont évolué pour s'adapter finalement à ce qu'était l'évolution du secteur d'activité de la filière dans laquelle elles exercent. C'est le cas pour des filières qui se sont énormément structurées à l'échelle française, mais aussi à l'échelle mondiale. Et pour résister, pour pouvoir livrer la compétitivité sur laquelle elles doivent exercer aujourd'hui leur performance, les coopératives ont été obligées de s'organiser. Donc il y a effectivement 13 grands groupes aujourd'hui. On ne voit souvent que cela dans le monde coopératif agricole français, mais il y a 290 coopératives qui sont des coopératives territoriales telles que tu les décrivais et qui sont des coopératives locales.
Alors, je vais prendre un premier appel. Est-ce que vous m'entendez, Christophe, c'est bien ça ?
Oui, je vous entends très bien. Oui, bonjour.
Christophe ?
Oui.
Bonjour.
Oui, bonjour. Christophe, vous êtes agriculteur dans l'Aube, c'est bien ça ?
Agriculteur dans l'Aube, Champagne-Ardenne, céréalier et betteravier. Et,
oui, Christophe.
Et quand vous dites envié par le monde coopératif. Ah,
on va retester la ligne, on prendra Christophe par la suite. Jean-Michel, tu montes une coop, raconte-nous, très concrètement.
Oui. En fait, moi je suis coopérateur depuis toujours. Il y a 35 ans que je suis agriculteur, que je suis à mon compte. J'ai toujours été coopérateur, d'ailleurs j'ai toujours été fidèle à ma coopérative. Sauf que j'ai vu évoluer. Et c'est vrai que ma coopérative a tellement grandi, comme toutes d'ailleurs, que en fait, je trouve que nos grandes coopératives se sont éloignées donc, de leurs adhérents, qui ne se sentent plus du tout associés à la gouvernance, c'est logique, puisqu'elles ont une logique de structure, hein, la concurrence veut. Et puis, on a aussi, c'est la mode de s'associer, de fusionner, de grandir, ça fait plus de chiffre d'affaires, ça fait des économies. Mais en fait, ce que j'ai vu en 30 ans, et ça, il n'y a pas que moi qui l'ai vu, si on prend l'exemple du blé, par exemple, Il y a 30 ans, je vendais mon blé deux fois plus cher qu'aujourd'hui. Si on tient compte de l'érosion monétaire, on devrait vendre le blé à peu près à 350, 360 euros aujourd'hui, le conventionnel. Donc, il y a 30 ans, je le vendais deux fois plus cher. Le prix du pain, lui, en 30 ans, il a suivi l'inflation. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 ans, moi, je gagnais bien ma vie. La coop gagnait sa vie, le meunier gagnait sa vie et le boulanger gagnait sa vie. Aujourd'hui, il y a un problème. J'accuse pas les coop, j'accuse le système en fait, mais il se trouve que la valeur ajoutée elle est plus partagée du tout et tout le monde prend une part de valeur ajoutée, sauf l'agriculteur. Même sa coop n'en prend pas beaucoup, ni le négoce. Hein. Le négoce n'en prend pas beaucoup non plus, je suis d'accord. Mais il y a quand même un problème de répartition de valeur ajoutée. Donc moi je pense, alors aujourd'hui je suis en train de constituer avec d'autres agriculteurs comme moi, une petite coopérative, on est une vingtaine à faire du bio et on va investir dans un moulin, donc on se met en coopérative pour investir dans un moulin, pour essayer de contractualiser, mais c'est pas simple, hein, on voudrait contractualiser avec toute la filière, et moi je pense que nos grosses coopératives aujourd'hui, elles ont vocation à continuer à travailler à l'export ou sur les gros marchés intérieurs, mais que je pense qu'elles n'arriveront pas. Il y a une mutation à vivre, mais elles n'arriveront pas à aller sur les petits marchés, les circuits courts, ces choses-là. D'ailleurs, ça ne représente pas un gros pourcentage du marché, hein, les circuits courts. Et je pense qu'on
mais
a...
Christophe et Dominique Chargé, là, écoute, ça fait partie aujourd'hui des objectifs de l'ensemble des coopératives françaises de s'intéresser aussi et pourquoi pas de recréer de la proximité, de la consommation locale. Effectivement, comme tu le dis, ça peut pas être exclusif parce que les marchés, ça n'est pas exclusivement cela, mais on voit bien que face à cette demande, les coopératives, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, grandes ou petites, se posent aujourd'hui la question et leurs adhérents leur posent la question, comme tu dois le faire d'ailleurs dans ta coopérative, leur posent la question de recréer cette proximité pour servir les marchés locaux. Donc elles vont et elles s'intéressent, et le Covid, l'épisode que nous venons de vivre, a mis en évidence à certains endroits de recréer un peu cette proximité. Donc on y travaille, on doit être aussi présent sur les autres marchés parce que nous devons servir l'ensemble des marchés, c'est l'intérêt de tout le monde, mais je partage ton point de vue. C'est aussi la mission des coopératives de revenir à de reformaliser un petit peu de proximité.
Pour moi, ça va être compliqué d'être sur tous les chantiers en même temps pour vous, pour les coopératives, parce que c'est des métiers complètement différents et c'est pas évident d'être bon partout. Et
l'initiative que vous prenez, moi je la salue et c'est très bien. Vous vous positionnez à une vingtaine. Pour recréer de la proximité en marché, on voit ça un petit peu partout, mais c'est aussi moi ce que je vois à force de voyager un petit peu aujourd'hui un peu partout sur les territoires, c'est le besoin aussi de garder du professionnalisme dans les opérations qu'on conduit et de ne pas finalement déstructurer les réseaux, parce que une des choses très importantes aujourd'hui pour servir un marché, c'est notamment la logistique. Alors effectivement, c'est capter la valeur et tu l'as très bien mis en évidence. Un des points aujourd'hui majeurs de l'action des coopératives, ça n'est plus forcément de produire de la masse, mais c'est d'associer la valeur aujourd'hui et aller chercher, capter de la valeur sur les marchés. Donc, c'est rentrer dans des processus de transformation et d'aller tout le temps plus loin sur la chaîne alimentaire pour capter cette valeur et redistribuer cette valeur.
Alors, s'il vous plaît, on a un agriculteur là. Christophe, vous m'entendez à présent ?
Oui, moi je vous entends, oui.
Voilà. Christophe qui nous appelle, il est agriculteur dans l'Aube et je suis obligé de vous couper parce qu'on a beaucoup de monde qui veut appeler et il faut écouter nos agriculteurs. Christophe, vous êtes agriculteur dans l'Aube, vous voulez dire quoi ?
Alors, Aube et Champagne-Ardenne, pour préciser un peu le département. Et moi, je suis adhérent de deux coopératives, je ne sais pas si il faut les citer, Vivessia et Cristal Union.
C'est fait.
Une céréalière, une sucrière. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que nos coopératives marquent plus de transparence. Et aujourd'hui, nos coopératives souffrent de rentabilité, puisqu'on le voit bien, elles sont toutes avec des clôtures de bilan déficitaire à trois chiffres. Et aujourd'hui, ces coopératives se cachent derrière une notion de marché, où c'est la loi des marchés. Mais aujourd'hui, moi, ce que je voudrais bien, c'est un prix rémunérateur, parce que nous sommes quand même la seule profession à nourrir la population, mais sans facturier. Donc aujourd'hui, nous aurions la base d'un prix rémunérateur par filière, ce qui serait bien, et réindustrialiser notre pays, la France, parce qu'aujourd'hui, on exporte peut-être un peu trop dans nos pays européens ou autres les frontières. Et certaines COP ont choisi peut-être une croissance facile externe, trop facile, et puis qu'ils se prennent aussi des pots de gamelle. Donc voilà un tout petit peu ce que je voudrais rappeler à nos amis coopératives, présidents de COP.
C'est dit.
Et bien qu'aujourd'hui, l'envie des coopératives, c'est déjà de bien rémunérer ses adhérents, et plus de transparence.
Et c'est déjà bien, Christophe. On va laisser Dominique Chargé répondre. On va vous remercier d'avoir pris la parole. Et on laisse Dominique Chargé vous répondre.
On est dans un marché ouvert. On est dans un marché ouvert. Bon.
Alors, Dominique,
ouais, allez-y. On est dans un marché ouvert, et attention à ne pas généraliser, mais la filière sucre, c'est ce que j'aurais dû vous dire d'une manière générale. En fait, aujourd'hui, les coopératives, elles s'inscrivent dans un contexte de marché qui est un marché, comme l'a dit Sophie Prima, mondial, qui est un marché ouvert. Et qu'aujourd'hui, la filière sucre, avec la décision européenne qui a été prise comme elle a été prise dans les autres filières et dans le lait également en 2015, c'est celle d'abandonner finalement l'encadrement et la régulation de la production, et ce qui a conduit effectivement à l'effondrement du marché et aux difficultés devant lesquelles se trouve la filière. Mais ce dont il faut plutôt, de mon point de vue aujourd'hui, être fier, même si ça demande évidemment... le marché demande à se redresser, mais c'est que nos coopératives vont savoir faire face à la structuration de la filière et pouvoir conserver, en tout cas, c'est tous les efforts qu'elle porte aujourd'hui, conserver la production sur le territoire. Ça a bien été, et je l'ai vécu personnellement dans d'autres filières comme la volaille ou d'autres filières qui ont traversé des difficultés, et c'est bien les coopératives qui, à certains moments, ont fait le choix stratégique d'aller structurer, réorganiser, restructurer les filières pour pouvoir conserver la production sur nos territoires, et c'est bien tout l'enjeu. Alors effectivement, ça passe par des moments difficiles, et le sucre est l'exemple du moment. Le lait l'a été, et ça reste difficile dans le secteur laitier. Mais c'est bien aussi le fait que les coopératives soient là qui va nous permettre de conserver la production sur nos territoires.
Alors, il va falloir faire des réponses beaucoup plus courtes parce qu'on a plein de questions. Mais juste avant, les tontons, comme chaque semaine, on vous demande de bosser, de faire deux propositions, peut-être de textes, de lois, je ne sais pas, quelque chose qui mériterait d'être intégré de façon à peut-être pouvoir faire avancer un peu plus de fluidité dans ce monde agricole et dans le contexte qui l'entoure. Alors, vous avez la chance, les tontons farmeurs, de cette semaine, puisque vous allez avoir, pour vous écouter, Sophie Prima, sénatrice des Yvelines, présidente de la Commission des affaires économiques. Sophie Prima, vous êtes ingénieure agro, donc vous connaissez bien l'agriculture, et en plus vous avez travaillé sur un rapport sur les pesticides en 2012 de mémoire. Vous connaissez bien l'agriculture. Quel regard déjà portez-vous sur les COP françaises ?
Merci de m'avoir invité. D'abord, je voudrais vous remercier sur cette thématique, parce que c'est une thématique qui me passionne, parce que le modèle coopératif, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans vos discussions, mais c'était un modèle qui est particulièrement regardé par l'ensemble des pays extra-européens, même comme étant un modèle tout à fait original et productif. Pour moi, c'est une solution, le modèle coopératif. C'est pas un problème. Il peut y avoir effectivement à la marge quelques aménagements à faire sur la transparence, sur le rapprochement avec les coopérateurs, mais c'est un modèle, vous savez, on est dans un moment où on parle d'un capitalisme plus social, avec la participation, avec l'intéressement, avec plus de participation des salariés au capital des entreprises. Ben en fait, ça, c'est le modèle des coopératives agricoles. Et dans les réactions que j'ai entendues tout à l'heure, je n'ai pas entendu finalement des questionnements sur le modèle coopératif, mais j'ai entendu des questions sur la taille, sur la concentration des coopératives et sur un éloignement entre le marché local et le système coopératif. Mais rien en réalité dans l'idée même de coopérative et les valeurs de la coopération. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Pas encore, mais ça va venir. Et puis, je voudrais réagir
Sophie, je me permets de vous couper quand même. J'ai parlé de gouvernance et effectivement de cet homme, un homme, une voix par rapport à une taille d'entreprise et par rapport à une structure économique qui a considérablement évolué. Donc,
oui,
en parlant juridique.
Oui, mais le principe fondateur reste le même.
Ce que disait Dominique tout à l'heure, il y a 2300 coopératives en France, il y a 12 000 CUMA, ce sont d'abord des PME et des TPE. Alors on s'adosse effectivement sur les grandes, et on a parlé de Sucre Union tout à l'heure, on a parlé de ces grandes coopératives, mais il y a 2300 coopératives en France, des vignerons, enfin il y a des coopératives très petites dans lesquelles le un homme, une voix, c'est quand même extraordinaire cette structuration.
Mais au-delà de la taille. Non, mais la taille, moi je me pose au fait que la taille... puisse remettre en cause le principe fondateur. Moi, je pense que chaque associé coopérateur...
Ça ne remet pas en cause.
C'est la manière de le faire vivre. Effectivement, à partir d'une certaine taille, il y a nécessité de faire évoluer le mode de gouvernance et de finalement décentraliser un certain nombre de réunions, ce qu'on appelle des réunions de section ou des réunions de territoire, qui doivent aussi faire participer l'ensemble des adhérents et les associer à la fois à la réflexion, à la stratégie, mais également évidemment à la décision.
On va écouter Raphaël Jeudy et Sophie Prima. Vous allez pouvoir écouter une proposition, justement, peut-être qui va dans le sens de plus de collectifs. Raphaël, quelle est la proposition que vous aimeriez soumettre à Madame la sénatrice ?
Alors, je vais être quelque peu bavard quand même pour m'exprimer.
Pas trop.
J'ai peu de légitimité étant donné que je suis négoce. Mais pour poser le débat, tout à l'heure, Dominique m'a cité, mais c'est Christophe qui paraît, et vous avez cité
Jean-Michel. Ah, désolé. Alors,
mais il n'y a pas de problème. Et Jean-Michel, et tout à l'heure, c'était...
c'est le problème de la radio.
Voilà. Ensuite, donc, pour la partie coopérative, la taille, c'est sûr que ça a bougé. Et vous avez parlé de 2000 coopératives, mais en réalité, en groupement de coopératives, on en compte 164 aujourd'hui, contre 5717 en 1960, d'après l'INSEE. Après, au-delà des chiffres, moi, je dois souligner la beauté d'une coopérative qui peut être implantée sur son territoire. Je vais la citer, tant pis, et j'ai aucun lien avec elle, c'est l'Imagrin. Chez nous, c'est une très grosse coopérative, mais qui a su garder au sein de son territoire une diversité. Et en opposition, je cite, et tant pis, c'est Axéréal, qui malheureusement, mais c'est au vu des mouvements aussi de société, a prôné l'agriculture intensive. Et les agriculteurs qui montent au-delà de 1000 hectares aujourd'hui, ça fait coutume chez nous, avec des capacités de stockage, et c'était bon pour mon modèle de bourse agri, ça c'est autre chose, mais ça a complètement modifié nos plaines céréalières ici. Et voilà, c'est deux oppositions de modèles. L'Imagrin connaît tous ses adhérents, ou au moins la plupart des membres du conseil d'administration connaît le terrain.
Raphaël, la proposition.
C'est d'être proche de l'agriculture.
Oui, mais Raphaël, ce sont des stratégies très différentes entre la stratégie de l'HCCL et la stratégie de l'Imagrin. Et ce sont toutes les deux de belles coopératives sur des secteurs et des segments très différents. L'Imagrin s'est beaucoup développé dans la génétique végétale et c'est ça qui fait son succès aujourd'hui. Elle conduit aujourd'hui finalement les bénéfices de sa génétique végétale jusqu'à la transformation des produits dans ses industries de
pain. Mais ils avaient un corde.
Et Axocéréal aujourd'hui, son investissement aujourd'hui dans le malt est une autre stratégie sur un autre secteur, mais qui poursuit finalement la même ambition, la même volonté de créer de la valeur et d'aller chercher de la valeur plus loin sur le marché.
Raphaël, c'est quoi l'idée? Il faut attaquer là.
Les coopératives et que les adhérents n'ont pas suivi.
Raphaël,
donc, pour
l'idée.
Attaquer dans le vif, ça risque de faire mal un petit peu, mais on va parler quand même des inégalités pour valoriser l'agriculture. Pour moi, pour prendre un petit peu de hauteur, il ne devrait pas y avoir d'inégalité, d'injustice. Un agriculteur français de base déjà ne devrait pas être différent d'un agriculteur du reste du monde. Ça, on l'a tous entendu. Mais un Français par rapport à un Européen, c'est vrai pour la réglementation phyto, c'est vrai pour les coûts de main-d'œuvre, c'est vrai pour l'import de denrées. De cette base, on en part sur le fait qu'on est un pays de taxes. On est un pays de taxes et ça fait plaisir à personne chez nous. On est d'accord là-dessus aussi. Ouais. Et donc, je pense pas que ça fasse plaisir à nos voisins, qu'ils soient polonais ou néo-zélandais, non plus, d'avoir des taxes. Donc, il faut donc s'attaquer pour moi à cette inégalité via les frontières, via des taxes justifiées en utilisation de produits qui sont non autorisés chez nous, avec l'impact carbone qui est différent. Donc, des ressources qui sont déjà produites sur notre sol français et qui doivent être valorisées. Ensuite, pour raccrocher au débat sur les COP, pour moi, il y a une distorsion de concurrence qui s'opère au sein même de notre pays. Donc, avant de laver le linge sale des autres, au sein même de notre pays, on doit enlever la poussière qui est dans la poutre qui est dans notre œil par rapport à celle du voisin. Voilà. Mmh. Et le problème, c'est la fiscalité. Parce que je ne sais pas si vous le savez, Madame la sénatrice, mais vous me voyez sûrement venir, Monsieur Chargé, la fiscalité des coopératives permet, grâce à l'article 207-1 du CGI, d'être exonérée totalement d'impôt sur les sociétés pour leurs sociétaires. Contrairement à nous, négoces, où on paye de l'impôt sur les sociétés.
Ah, donc, c'est un vieux débat.
Moi, je pars juste de ce point-là.
C'est un vieux débat sur...
Mais je donne juste la conclusion.
C'est un vieux débat entre le négoce et les coopératives.
Tout à fait. Et si on remettait juste cette pendule à l'heure, d'un sens ou d'un côté ou d'un autre, hein, Vous imaginez bien qu'on préférait que de notre côté, pour défendre notre métier, nous soyons rémunérés. Mais peu importe, dans un sens ou dans l'autre, je pense que le gouvernement...
Il y a des vraies missions derrière cette fiscalité.
On part jusqu'au bout de cette fiscalité, on remettra les pendules à l'heure, et je peux vous dire que les COP, elles rouleront pour les agris. Que vous
exposiez, il ne faut pas associer ça au fait qu'il y aurait des dysfonctionnements.
C'est ce qu'on appelle la compétitivité.
Oui,
et ensuite, je conclue sur un débat qui est le négoce de COP. Pour moi, les COP qui se sont dit, eh ben, on n'a pas tous les corps dans nos arcs, et on a besoin d'être compétitif, réactif, et d'être sur le terrain, on va racheter des négoces, et on va jouer double jeu. Pour moi, c'est une aberration.
Bon.
Un négoce de COP ne devrait pas exister.
Raphaël, voilà. Une question de Rémi Dumery, qui nous écoute actuellement. Comment les COP vont réagir à la chute de volume prévisible, du fait de la jaunisse, par exemple, de toutes les problématiques des cultures actuellement? Est-ce que ça va les fragiliser?
Ah ben oui.
Qui souhaite répondre?
Je ne suis pas compétitive, mais bien sûr,
c'est un vrai sujet du moment.
Évidemment, c'est le sujet du moment. C'est le sujet du moment, très grave.
Sur la betterave, sur l'orge, voilà.
Sur toute notre industrie agricole, ouais, autour du sucre en particulier, et autour des biocarburants, et autour de toute cette filière industrielle qui va être très, très largement affaiblie, y compris les coopératives.
On va avoir des consolidations, des rachats, des pots de bilan.
Ça va être beaucoup plus difficile que ça. Pour moi, le risque, il est très grave, et les risques de fermeture d'usines. Enfin, je vais jusqu'au bout de la chose, parce que
je renforce les propos de Sophie. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on constate sur la culture de la betterave, donc sur la filière sucrière, est vraiment très alarmant en termes d'attaque d'insectes et d'incapacité à pouvoir maîtriser les situations. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur la ligne de crête, dans les impasses techniques devant lesquelles nous nous trouvons. Et donc, la nécessité de bien mettre en évidence qu'il ne peut pas y avoir d'impasse technique. On ne peut pas laisser les agriculteurs en impasse technique. Tant qu'on n'a pas trouvé les solutions alternatives, il faut pouvoir maîtriser les populations invasives.
Sur le sucre, on a un double enjeu qui est l'enjeu des phyto, effectivement, et de la protection des cultures. Si on n'y arrive pas, l'année prochaine, il n'y aura plus de terre en blavée. Donc, de toute façon, on a ce problème-là, et on a le problème des cours, des coopératives ou pas coopératives. On a ces deux problèmes-là qui s'ajoutent l'un sur l'autre et qui risquent d'être structurellement extrêmement graves pour notre pays. Je ne pouvais pas imaginer il y a 5 ans que j'aurais dit qu'aujourd'hui, un planteur de betterave n'allait plus gagner sa vie avec ça. C'est un truc qu'on ne pouvait même pas imaginer. Donc là, aujourd'hui, on est dans une situation très délicate. Et là, c'est indépendant.
On vit quand même des ruptures importantes. Je pense que c'est important de le signaler. On vit vraiment des ruptures importantes, à la fois en termes d'attente des sociétés, d'attente de la société, d'attente des consommateurs, d'attente des agriculteurs. Et quand il faut associer ça aujourd'hui, effectivement, aux défis climatiques et aux vraies conséquences qu'on a aujourd'hui par rapport au changement climatique, mais également à la nécessité sûrement d'aller vers des transitions agroécologiques, eh bien on a des vrais défis devant nous sur lesquels il va falloir que nous soyons accompagnés.
Une autre question.
Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure, je ne sais plus, l'auditeur précédent, Jean-Michel ou Raphaël, je ne sais plus, ou Christophe. Évidemment que la France qui a abandonné les néonicotinoïdes de façon définitive se met en sur-réglementation par rapport aux pays intra-européens qui, eux, continuent à l'utiliser soit par voie dérogatoire, soit sur certaines molécules, et qui là sont en concurrence déloyale par rapport à la France. Donc
la question des distorsions de concurrence aujourd'hui intracommunautaire. Alors avec les pays tiers, évidemment que c'est un sujet par rapport aux accords bilatéraux que négocie l'Europe, mais alors en intracommunautaire, effectivement, tout ce qui est distorsion environnementale notamment, d'utilisation donc de produits, mais également on pourrait parler de social et de fiscal, puisque vous y en parlez, c'est effectivement des vrais sujets des vraies entraves à la compétitivité de nos filières agricoles
et
alimentaires.
Le sujet, c'est les coopératives, et on est en train de dériver. Je vais prendre une question. Johan Dumont qui dit « Les agriculteurs n'ont-ils pas été mis de côté lors des fusions de coopératives des 20 dernières années ?» Et justement, on a été interviewé un administrateur de coopérative, d'une coopérative dans le Var. On l'écoute, vous allez voir.
Au niveau des coopératives, c'est le pendant de nos exploitations. Donc on l'a un peu perdu de vue, mais nos ancêtres ont fait de magnifiques coopératives, un magnifique outil pour justement s'astreindre des négoces. Maintenant, ce qu'il faut veiller surtout, et là c'est, il appartient au conseil d'administration de le décider, c'est que c'est un outil qui reste à taille humaine, pour que les agriculteurs ne soient pas considérés comme des numéros, mais soient vraiment considérés comme des clients et des apporteurs. C'est ce qui est le plus important. Si on ne veille pas à ça, ben le système coopératif, il est dévoyé. Et il faut aussi veiller à ce que la coopérative, ben elle arrive effectivement à vivre, mais en même temps à bien rémunérer ses agriculteurs, parce que c'est interdépendant les deux. Si on supprime un des deux volets, ça peut, le système ne peut pas marcher.
On le sent, lui c'est un administrateur de coopérative, il s'appelle Claude Chélan. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il est vraiment préoccupé par cette dimension en taille humaine. Comment vous allez arriver à gérer ça, les grosses coopératives?
Non mais je disais tout à l'heure, je peux le redire, à partir d'une certaine taille, il y a nécessité de décentraliser un certain nombre de réunions qui associent les associés coopérateurs à la réflexion et à la décision quelque part. Donc on est aujourd'hui, toutes les grosses coopératives ont des réunions décentralisées par section, par production par exemple si elles sont polyvalentes, et il y a une délégation qui s'installe. Mais chaque associé coopérateur est invité à ces réunions, qu'elles soient statutaires ou non d'ailleurs, à pouvoir participer à la vie et à l'évolution de sa coopérative. Après, il y a effectivement un processus de décision, de gouvernance qui se met en place, et il y a un mandat qui est donné par l'Assemblée Générale qui est réunie tous les ans, et qui a un mandat qui est donné à un conseil d'administration, parce qu'il faut bien aussi pouvoir décider.
Jean-Baptiste Verville nous dit,
j'ajoute que les lois différentes, notamment la loi de 2014, a renforcé les obligations d'information du conseil d'administration. Le directoire des associés coopérateurs a été renforcé, et la loi Egalim a également renforcé un certain nombre d'obligations d'information de transparence récemment. Donc on est dans cette logique d'une meilleure transparence et d'une meilleure prise en compte de l'ensemble des administrateurs, aussi uniques et petits soient-ils, à l'intérieur de coopératives.
Jean-Michel,
mais je pense qu'il doit y avoir, processus de gouvernance quel qu'il soit, il doit y avoir le temps du débat, il doit y avoir le temps de la décision, il doit y avoir le temps pour rendre compte.
Dominique, Jean-Michel Rabier a une proposition à faire à Sophie Prima. Je suis désolé, faut que je vous coupe. Jean-Michel Rabier, faites votre proposition.
Merci. Alors moi, je vais reprendre ma casquette de producteur de un peu basique, quoi. Je suis pas trop sur le macro. Moi, je me préoccupe des producteurs, et j'aimerais bien que les producteurs puissent faire un peu de revenus et retrouvent une part de valeur ajoutée de toute la filière. Alors si on reprend la filière blé, par exemple, moi, j'aimerais bien qu'on puisse disposer d'un outil, donc Madame la sénatrice, d'un outil qui nous permettrait de contractualiser facilement avec tous les maillons de la chaîne. Aujourd'hui, un producteur, il vend son blé, il contractualise avec soit sa coopérative, soit son négociant. Mais il va pas plus loin, en fait. Et donc, pour rester poli, il se fait un peu baiser, quand même, pour dire, il prend ce qu'on lui donne. Voilà, il prend ce qu'on lui donne, et puis s'il fait un bon rendement, ben ça va quand même, il fait un peu de revenus, bref. Et moi, j'aimerais bien pouvoir retrouver que chacun ait une part de la valeur ajoutée, pouvoir contractualiser, non pas à deux, mais pouvoir contractualiser, par exemple, le producteur, il pourrait contractualiser avec la COP ou le négociant pour nettoyer, stocker le grain, le meunier aussi qui va faire la farine, et le boulanger. Et on pourrait faire une contractualisation à quatre, par exemple. Parce que moi, aujourd'hui, il faut quand même être un peu spécialisé pour gagner sa côte, pour arriver à être bon. Moi, aujourd'hui, je suis paysan. Je sais à peu près faire pousser du blé bio, et des choses comme ça, des lentilles. Mais je ne sais pas être boulanger, être meunier. Chacun son truc. Le paysan boulanger, bon, c'est sympa, c'est joli dans les journaux, tout ça, ou dans les émissions de radio publiques, ou voilà, des choses comme ça. Mais c'est pas la vraie vie, ça, en fait. Moi, je pense que
la vraie vie, moi j'entends votre proposition et je me dis que rien à date n'empêche une contractualisation à 2, à 3 sur les filières. Vous savez que dans les négociations de la PAC, une partie des revendications, c'est justement que les fonds de la PAC permettent aussi de restructurer l'ensemble des filières. Alors la filière B, elle est quand même plus ou moins quand même bien organisés. Et surtout, ce qui se passe dans le blé, c'est que malheureusement ou heureusement, pour notre commerce extérieur, mais la part du blé qui est vendue pour votre boulanger du coin, elle n'est pas aussi importante. Elle est à mettre aussi en comparaison avec l'exportation du blé. Et là, on est sur des marchés qui sont des marchés mondiaux, avec des cours mondiaux, avec lesquels votre coopérative aujourd'hui, elle doit aussi se battre. Donc, si vous voulez, la question que vous posez, oui, elle est la question de comment on peut restructurer une filière et comment localement, d'ailleurs, vous pouvez le faire aujourd'hui. Moi qui suis dans les Yvelines, donc dans une terre de production céréalière, je peux vous dire qu'il y a des contractualisations très courtes entre les agriculteurs qui vont des agriculteurs aux boulangers et ça fonctionne plutôt bien. Donc aujourd'hui, rien ne l'empêche. Et puis après, il y a un marché du blé qui est un marché mondial, qui est un marché sur lequel vous avez besoin des coopératives pour pouvoir stocker, vendre au bon prix. Là, la contractualisation sur l'ensemble de la filière me semble être compliquée. Mais ce que vous posez derrière votre question, en réalité, c'est le problème de la valeur. C'est comment on crée de la valeur.
Exactement.
En fait, c'est ça, et c'est pas le problème.
Comment on crée et comment on garde, Sophie?
Comment on crée et comment on garde la valeur? Et comment cette valeur, elle est bien répartie sur tous les éléments? Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Moi, ma conviction, pour avoir beaucoup bataillé pendant la loi Egalim, qui ne traite qu'une partie de l'amont de votre production, c'est de savoir en réalité, c'est de travailler sur les prix de vente. En fait, aujourd'hui, quand on achète sa baguette, le monsieur l'a tout à fait bien dit tout à l'heure, on l'achète moins cher qu'il y a 20 ans. Et bien ça, c'est pas normal. Je suis désolée, mais peut-être...
Ou au même prix, moi j'ai dit à peu près.
Ou au même prix, peut-être un peu moins cher en novembre.
Et le blé a battu.
C'est ça, voyez, c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a été emmené dans une spirale des prix bas. Ça permet que l'agriculture et l'alimentation soient accessibles au plus grand nombre. Et pourtant, les agriculteurs ne gagnent pas d'argent. Et pourtant, on n'a jamais autant importé de produits agricoles de l'extérieur, de l'Europe et de l'intérieur de l'Europe. Donc là, il y a un problème sur la valeur, sur la conscience de la valeur et sur la conscience de la qualité de l'alimentation qu'on est en capacité en France.
Est-ce que je peux vous couper, madame la sénatrice?
Oui, pardon, j'étais...
Mais très court.
Je vais apporter un petit témoignage. Je vends du blé bio, du blé bio à 500 euros la tonne. À un boulanger, il passe par un moulin local et il va chez un boulanger local. Je vends le blé à 500 euros la tonne et le boulanger bio ne vend pas le pain plus cher qu'un boulanger conventionnel, au kilo. Et il gagne sa vie, le boulanger.
Oui, c'est peut-être parce que vous avez du circuit très très court, je ne sais pas.
Oui, et n'empêche qu'au lieu de vendre du blé à 150, je le vends à 500 et le pain n'est pas plus cher à la sortie. Et tout le monde est content.
Cher invité, il est 19h39, donc c'est fini parce qu'à 40, savez qu'on termine toujours l'émission. Alors voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Je tenais bien sûr à vous remercier, tous nos invités, ainsi que l'association CoFarming. Et je vous remercie aussi à vous, auditeurs de notre chaîne Powerboost sur YouTube, de nous avoir suivis. Il y avait plein de questions, Annaëlle, Jean-Baptiste. On n'a pas pu toutes les prendre, malheureusement, mais c'est comme ça. Et je vous dis à bientôt sur TV Agri, sans oublier nos partenaires. La Banque Populaire et le groupe Agrica qui permettent à cette émission d'exister. Rendez-vous mardi prochain à 19h précise. Et le thème, c'est les phytos et si on dépassait la guerre de tranchées. À très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. À vous, à bientôt.
Bonne soirée.
Bonne soirée à toutes.
Au revoir, merci Jean-Paul, merci à tous.
À bientôt.
Merci, bonsoir tout le monde.
Tu débriefes ou pas là, non?